on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
À thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
Et je considère Dimitri un des génies modernes du football.
Bonjour, faut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Kevin Diaz, Elton Mokolo, Ouled Hacher Chour et Fred Hermel qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Conflit, pas conflit, rencontre générationnelle pour Fredo.
Ouais, ouais, ça fait bizarre. Non,
pas, tout, pas de conflit,
je te montrerai le joystick.
Je vais voir Fred déjà. On a déjà vu Fred sur un terrain. Alors Fred avec un joystick, c'est peut-être encore plus drôle, je pense.
T'as déjà joué à la PlayStation quand même.
Oui,
quand même.
Oui, mais j'aime pas trop.
Avec son neveu peut-être, non?
Non, mais ouais, non, je suis pas très fan.
Au moins, ma regarde.
Non, mais moi, en fait, moi, quand j'étais petit, c'était des trucs à cristaux liquides, là.
Ouais.
J'avais un jeu qui s'appelait Turtle Bridge.
À Game Boy?
Mais avant les Game Boy. Non, non,
c'était la Game Boy, c'est fin des années 90.
Je te parle là, 80.
C'était pas la Game Boy, c'était le boy qui gagne.
Un temps que Vinicius ne connaît pas également, ouais. Les amis. Trop jeune, encore au cœur d'une polémique après le match d'hier soir, après ses larmes émouvantes en conférence de presse, sans veille de match. Il a eu un mauvais geste, moi qui personnellement m'a pas choqué, sur un brique la porte. Qui s'est moqué de lui d'ailleurs aujourd'hui, hein, sur les réseaux. Il a fait peut-être qu'il voulait danser, Vinicius. Voilà, Fredo, ça aussi, encore une fois, ça alimente les sujets autour de Vinicius, le décalage entre... Ouais. C'est d'ailleurs pas de décalage, hein, faut pas corréler ses larmes en conf et son comportement sur le terrain.
Non,
mais en fait, mais il agace quand même. Voilà.
Il agace, mais parce que par son jeu, il agace. Et c'est quelqu'un qui est, quelque part, il a un petit peu du Cristiano Ronaldo en lui. C'est-à-dire qu'il veut toujours gagner à un point que ça en devient insupportable.
C'est vraiment c'est-à-dire, ça.
Ah ouais, vraiment, c'est un gagneur. C'est un... Et il est, comment dire, alors le Ébric Laporte, on a rigolé. Hein, faut pas non plus en faire des tonnes, quoi, tu vois. Mais c'est vrai,
il pose son coude sur lui. Ça
c'est vrai que les Brésiliens, quand ils égalisent sur le pénalty à 3-3, putain, ils célèbrent le but comme si c'était la finale, oui, ça, de la Coupe du Monde.
Ça en revanche, oui.
Mais ça, c'est l'esprit brésilien. Et finalement, moi, j'ai beaucoup de commentateurs en Espagne qui disent, mais c'est bien. Voilà, ces mecs sont compétitifs, quoi. Donc c'est pas rien de jouer en Espagne, Brésil, au Bernabéu. Et donc Vinicius, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il est comme ça. Qu'il est énervant, qu'il est comme ça, qu'il se motive aussi dans la guéguerre avec les autres. Voilà, c'est pas Kaka qui était tout le temps impérial. On a l'impression que rien ne l'atteignait, etc. Il y a des joueurs comme ça, non? Lui, c'est un sanguin.
Mais lui, en conférence de presse, il y a quoi? Il y a 2-3 mois, il avait dit oui, je sais qu'il faut que je change mon comportement sur le terrain.
Oui, oui, il a que 23 ans. C'est encore un gamin.
Après, on peut dissocier les deux. Tout ce qui se passe autour du racisme,
ah oui, c'est ce que je disais,
qui est nauséabond autour du
racisme.
Voilà, et qu'on condamne totalement. Et après, de l'autre côté, on peut aussi parler de ce que Vinicius est sur le terrain, c'est-à-dire un joueur provocateur avec le ballon, mais aussi dans son body language.
Un peu sale gosse, on peut le dire.
Auprès de ses adversaires. Maintenant, ça ne légitime pas et ça n'autorise pas les supporters à être aussi.
Ouais, t'as raison, c'est deux choses.
Moi, je pense que demain, voilà, tu peux être aussi un supporter adverse qui n'aime pas la provocation de Vinicius tout en restant dans le respect.
Tu peux siffler sans faire les cris de singe.
Voilà,
dans le
respect humain. Et peut-être que lui aussi, parfois, parce qu'il faut qu'il fasse attention, Vinicius, moi, ce qui peut me déranger, c'est si ça, ce rapport conflictuel qu'il peut avoir avec ses adversaires notamment, si ça le dessert dans son propre jeu à lui.
Ouais.
Si ça le sort du match, s'il peut prendre un jaune, s'il peut prendre un rouge, son jeu avec les arbitres, etc. Mais ça, c'est un débat annexe, c'est un débat très très différent par rapport à.
Ouais, mais c'est un
débat. Tu sais quelle est la grosse insulte? Tu sais ce qui énerve le plus les adversaires? C'est qu'il leur met des vents, quoi.
C'est-à-dire sur le terrain, quand tu parles de.
Mais c'est dur pour un défenseur quand t'as Vinicius en face, quoi. Donc, ouais, à un moment,
comme Neymar à sa meilleure époque.
Bien sûr, ils sont comme ça parce qu'il y a un côté.
Il y a forcément un problème du côté de Vinicius de gestion des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il a du mal à gérer ses émotions sur le terrain, quand il répond à une provocation, parce qu'il peut être expulsé, notamment à Leipzig, et là, il met son équipe et lui-même en difficulté. Par contre, bien sûr que ceux qui vont légitimer un quelconque acte de provocation, de racisme, l'enthousiasme parce que Vinicius est agaçant, ça c'est bien sûr inaudible et insupportable. Mais il y a aussi des joueurs qui sont comme ça. Et j'ai envie de te dire, heureusement. Tant que ça reste dans le respect, que Vinicius est chambreur, que Vinicius peut s'énerver après un adversaire. Honnêtement, moi, ça fait aussi partie
de que
j'aime dans le foot.
Par contre, comme tu as dit,
je vais te dire, forcément, pour l'avoir vécu, des fois, ça te fait sortir du match quand même.
Tu peux être matrixé, en fait.
Et bien sûr.
Tu peux te rentrer dans un...
Des fois, tu te matrixes tout seul et tu crois que tu as besoin d'être énervé pour jouer. Des fois, ça te sert. Et
oui, ça peut servir aussi.
Ça va te desservir.
Tu sais que tu peux donner une rage. Rossellou, l'autre jour, je lui ai dit, mais tu sais, s'il te plaît, calme-toi, on n'a pas envie de finir à 10, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça qu'il doit apprendre, je sais. Et moi, je m'en souviens, et de discussion que j'avais pu avoir avec Carlo Ancelotti, où Vinicius, il a dû apprendre beaucoup, beaucoup de choses quand il est arrivé au Real. C'est-à-dire que, vous vous souvenez.
Il a déjà fait un stem énorme,
hein. Mais Benzema lui a pris beaucoup, déjà.
C'était quand même. Et puis, Bettoni et Zidane à l'entraînement.
Faut pas oublier la déclaration de Benzema, hein, quand même, dans le
Mais bien sûr, mais oui. Et il n'en a pas voulu. Parce que Benzema, c'était son maître, etc. Mais ils ont beaucoup travaillé. Bettoni, Zidane, Ancelotti. Déjà, techniquement, c'est plus du tout le même joueur qu'il y a quelques années. Oui. Rappelez-vous, Vinicius, c'est le mec qui faisait trois dribbles, super. Ça, oui. Et puis, dans le dernier geste, il faisait n'importe quoi. Il a quand même énormément progressé dans son jeu. Donc, ah, oui. Là aussi, il faut faire confiance à l'encadrement qui vont lui permettre d'évoluer et de progresser au niveau de son comportement. Mais vous n'aurez jamais un Vinicius serein sur un terrain. Ça n'existe pas. C'est sa manière d'être.
Bon, ça arrivera peut-être. Roger Federer avait réussi à calmer ses démons. Il cassait des raquettes à chaque match.
Ça, c'est vrai.
Et il a réussi à devenir très calme.
Fredo, merci, c'est un plaisir de t'accueillir.
J'ai l'impression d'avoir 23 ans là.
Je vais quand même dire un truc sur les Brésiliens. Ouais. Pour avoir joué avec et contre des Brésiliens, on croit qu'ils ont toujours le caractère samba et tout.
Mais non, regarde,
il y a beaucoup de Brésiliens qui sont insupportables, voire violents sur le terrain. J'ai joué contre des équipes de Brésiliens ou contre des équipes portugaises, il y avait beaucoup de Brésiliens.
Il n'y a pas de généralité non plus.
Mais c'est pas que des tricoteurs et des dribbleurs.
Il y a des très bons défenseurs.
Et des rugueux en plus.
Oui. Après, on parle de joueurs qui, à 16 ans, ils jouent devant 80, 100 000 spectateurs. C'est-à-dire que si t'es pas prêt pour jouer dans ces contextes-là, t'as rien à faire.
Là, t'en as un autre qui arrive, là, Hendrick. Bah, voilà, on en parlera plus tard, Hendrick. Merci, Fredo.
On aura le temps.
Très bonne soirée à toi.
Adios, chicos.
À très vite sur RMC.
RMC. OM. PSG. J-4.
Bonne soirée.
J-4 avant Marseille, Paris, Saint-Germain. On a convoqué ce soir Romain Canuti en direct de Marseille. Salut Romain.
La Canute.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va
bien et toi dans ta salle de bain, tout se passe bien?
Non, écoute, on a fait plein de tests, j'ai fait toutes les pièces, si tu me dis que je suis dans la salle de bain, je vais être vexé.
Ça résonne. Mets des meubles chez toi Romain. Alors, on parle de Marseille PSG parce que alors tu vas me dire dans un instant s'il y a une grosse inquiétude qui est amplifiée avant l'avenue du PSG habituel. Je rappelle, Ulysse Garcia out, Pape Gueye, Ismaël Assar out, Jonathan Clauss forfait pour 3 à 4 semaines. Absence auxquelles on peut ajouter celle de Rongier, de Bilal Nadir, Jean Onana, Bao Meite, Mikel Morillo et a priori Samuel Gégo, tout ça donc avant Paris, mais pas seulement Paris, avant Lille, Nice, Lens et au milieu de la double confrontation contre Benfica. Est-ce que c'est la panique au club? Est-ce que c'est la panique à Marseille, mon cher Romain?
Alors déjà, Nico, je crois que tu en as oublié deux. Il reste encore Leti Ndiaye et Julien Rodriguez qui sont blessés. Bon, tu me diras, ça fait un petit moment. Donc,
c'est le gardien aussi.
Paul Lopez, non, Julien Rodriguez. Non, bien sûr. Il y a Simon, ouais, c'est le troisième gardien, ça va aller. Mais non, effectivement, il n'y a plus grand-chose. Et effectivement, le troisième gardien, en fait, réflexion faite, il aurait été utile, ne serait-ce que pour faire des oppositions à l'entraînement. Là, ils sont plus assez. Je suis à deux doigts d'y aller moi. Non, c'est très problématique et effectivement, tout le monde est déprimé. En fait, t'as ce truc de te dire la saison là, t'as l'impression que c'est fini avant même d'avoir joué, alors que t'as quand même quelque chose d'excitant à jouer parce que t'avais quand même des places européennes. Là, tout le monde est conscient que troisième, ça aurait été quelque chose de totalement fou. Mais vu la saison, un retour, ne serait-ce que dans le top 5, ça aurait été incroyable. Alors c'est encore faisable, hein. On va pas dire c'est fini, on va déclarer forfait, mais tu te dis que c'est très compliqué à jouer et c'est très compliqué de commencer à faire des calculs alors que tu as un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est un quart de finale de Coupe d'Europe, ça arrive pas toutes les années à tous les clubs français et là tu vas le faire à reculons, en calculant, en te disant ouais mais on met peut-être lui, il est pas à 100%, faut qu'il fasse gaffe.
Et tu fais quoi en défense alors? Juste dimanche déjà Romain. qu'est-ce que peut imaginer Jean-Louis Gasset là?
Ndombele en défense centrale.
Je pense, c'est le plus probable. En fait, il y a deux joueurs qui sont aptes, vraiment, et on va toucher du bois, hein, parce que c'est pas. Il peut se passer encore des choses au rythme où là ça va, il peut se passer encore des choses d'ici dimanche. Et donc, tu as Quentin Merlin et Chancel Mbemba. Donc, vraisemblablement, tu les mettrais les deux sur les côtés, dans le sens où Mbemba est capable de jouer latéral droit.
Pour bloquer Mbappé.
Il l'a montré. Mbappé, on a vu l'an dernier, je sais pas si tu te rappelles, c'était Eric Bailly qui était à son marquage dans le système Tudor sur le match de championnat, ça avait fait doubler d'Mbappé et quasiment la fin du parcours de Bailly à l'OM. Donc là, ça va être pas un cadeau pour Mbemba, mais en même temps, t'as pas le choix. Et défense centrale, t'as Kondogbia à faire redescendre et t'as 4 joueurs qui sont actuellement blessés. Et il y en a forcément un qui va serrer les dents et qui va voilà bien se strapper. Donc c'est soit Balerdi, soit Jean Onana qui peut descendre lui aussi, soit Gigot, soit même Pape Gueye. Tu pourrais imaginer un truc où au final ça joue à 5 derrière avec 2 des 4 noms que je viens de vous donner qui serrent les dents.
Mais c'est des joueurs qui sont blessés et
qui vont devoir s'accrocher quoi. Tu parles de Jean Onana et de Samuel Gigot qui sont très incertains, ouais, bien sûr. Pas 100%.
Ouais, après, c'est des douleurs différentes.
Si tu mets Jean Onana, Pape Gueye et Kondogbia en défense centrale, qui tu mets au poste de numéro 6 quoi?
C'est vrai.
C'est pour déshabiller
Paul pour habiller Jacques. Pour déshabiller Jacques aussi.
En plus, il l'avait, Walid. Hein.
Quand je l'avais,
j'aurais dû le laisser aller. Putain,
il était pas serré.
Bien sûr, j'aurais dû le laisser
aller. J'avais envie.
C'est le problème d'être à distance. Je t'aurais mis ma main sur la bouche. Là, je t'aurais dit, laisse le génie s'exprimer.
Il va tout droit.
Il était lancé.
Oh, je suis nul.
On pouvait avoir un truc créatif. Hein.
Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la trêve a tué la fin de saison de Marseille? Je pose la question, elle est assez caricaturée, assez excessive. Mais sauf qu'on l'a dit, au mois d'avril, j'ai cité le calendrier, il est très important pour une équipe qui doit refaire son retard en Ligue 1, qui doit rêver un peu plus en Coupe d'Europe. Kevin? C'est foutu pour toi ou pas? Ou alors les 11-12 joueurs disponibles et de haut niveau peuvent faire l'affaire?
Je pense que ça peut être foutu, mais je suis pas sûr que ce soit la trêve qui va tuer la fin de saison de l'OM. Hein. Même avec un effectif au complet, il y aurait eu quand même des difficultés au vu des adversaires qui vont se présenter devant l'Olympique de Marseille. Maintenant, après, de toute façon... It is what it is, comme disent les Anglais. Ils vont devoir faire avec. Je sais quoi, Lid, t'as pas compris, mais je t'expliquerai après.
Ouais,
c'est forcément, il y a pas le choix. Il y a pas le choix pour l'Olympique de Marseille. Il faut faire avec cet effectif. Alors, je connais pas la réserve de l'OM, hein, qui est pas très bien classée en National 3, mais il y a peut-être 2-3 jeunes qui peuvent dépanner au moins sur le banc. Mais c'est clair que là, l'OM n'a pas grand chose à espérer avec un effectif aussi diminué et au vu des échéances à venir.
Mais c'est pas la trêve qui a tué la saison de l'OM. L'Olympique de Marseille s'est quand même mis dans cette situation-là tout seul, de par leurs mauvais résultats, et puis aussi parce que les blessures ne datent pas d'hier. Entre la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations de la part de Longoria, plus les blessures, on se rappelle déjà du mois de janvier, qui avait été pour moi charnière pour l'Olympique de Marseille, avec des points... Des points laissés en cours de route, je me rappelle de Monaco à 10 contre 11, voire même à 9 contre 11 sur la fin de match. Je me rappelle de ce match contre Metz où tu prends un carton rouge très très tôt à la maison. Je me rappelle de ce match contre Strasbourg aussi, le 1 partout où tu mènes 1-0 et ça fait 1-1 avec ces points-là, l'Olympique de Marseille aurait pu peut-être avoir un matelas conséquent ou en tout cas se permettre de perdre contre le Paris Saint-Germain avec des blessures. Là aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que l'Olympique de Marseille est dans une situation ou dans ce calendrier qui va être infernal, ils ne peuvent pas laisser de points parce que c'est des matchs très très importants. Tu vas jouer Lille et si tu veux rattraper Lille là-bas, il va falloir gagner ou au moins faire un résultat positif. La même chose pour Lens, la même chose pour Nice où tu vas les recevoir sur les prochaines semaines. Moi, je pense pas qu'on puisse répondre que ce soit la dernière trêve internationale qui a tué la saison.
Non, c'est un tout. C'est le mercato l'été dernier.
Oui, voilà. C'est la gestion d'une saison.
Dans un instant, on fait une pause. Romain Canotti reste avec nous également aussi. Je te rends la parole dans un instant. Et vous, au 32-16 du Pantin Marseille, appelez-nous pour nous dire comment vous appréhendez ce match dimanche soir et le mois d'avril qui arrive pour l'OM.
Va pas les aider. Hein.
Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Elton Mokolo. On est ensemble jusqu'à 22h, hein, à 21h45, le footballeur masqué. Il est prêt déjà, il est connecté, il faudra découvrir son identité. On parle de Marseille-PSG dimanche soir, l'infirmerie est pleine à Marseille. Dis-moi Romain, je te donne la parole dans un instant Elton, est-ce que on fait presque l'impasse sur ce match à Marseille? Est-ce qu'on se dit qu'on va se faire manger, dévorer, comme ça a pu arriver les saisons précédentes, hein? Je rappelle qu'il y a une victoire marseillaise il y a à peu près un an, au Vélodrome en Coupe contre Paris. Romain.
Ouais, est-ce que tu te souviens, Nico, il y avait un fait un peu particulier sur ce match, hein. L'OM gagne 2-1, c'était pas non plus une large victoire. Est-ce que tu te souviens d'un petit fait côté parisien sur cette victoire en coupe?
Mais Mbappé était pas là au coup d'envoi.
Oui,
c'est ça,
voilà,
en retard,
c'est ça.
En retard à la causerie, puni.
Non, ça c'était quelques années auparavant.
Ah non, c'est vieux.
C'était quelques années auparavant.
C'est vieux,
c'était 2018, ça.
Là, avec Radio. 2018, avec Radio. Quand il était rentré, il avait marqué. Mais non, il était pas là. Et Mbappé, en fait, quand il joue au Stade Vélodrome, alors à part avec l'équipe de France hier soir, quand il joue au Stade Vélodrome, c'est quasiment but à chaque fois, je crois. Il fait 6 matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, et puis 5 buts, 2 passes des. Là, il va jouer dimanche, donc déjà, tu vois...
Pas sûr.
Ah ouais.
Bon, t'as suivi l'actualité du PSG.
Je suis preneur,
hein,
auquel cas. Mais pour te dire tout à l'heure, Kevin, ça fait plaisir d'ailleurs de vous retrouver les copains. Kevin disait, il y a peut-être des jeunes de la réserve. Alors la réponse est non, parce que pour situer en réserve, on a fait revenir Stéphane Sparagna. Tiens, tu vois, tu parlais de joueurs d'il y a 8 ans, tu es raccord là. Il y avait Stéphane Sparagna qui est revenu. Je ne sais pas si vous en souvenez, il avait fait quelques matchs avec Bielsa à l'époque.
Il était au Red Star, Stéphane Sparagna.
Il non était au Red Star, ouais. Il n'a pas trop joué. Là,
j'ai pas trop vu à Bauer, mais.
Pourtant, le Red Star, c'est.
C'est à Bauer. Et uniquement à Bauer.
Bien placé. Ouais. C'est à Bauer et c'est avec de beaux arbitres, si on se rappelle le dernier Red Star Martigues. Mais ne faisons pas de digression, mon cher Walid.
Pas ça, Romain.
Et il y a aussi Kassim Abdallah, tu vois, qui a été rappelé pour jouer les tontons qui encadrent en National 3. Donc évidemment, c'est pas pour la, ça peut faire banc sur et ça fera banc probablement, mais voilà, ça peut pas jouer. Soyons sérieux, 2 minutes, sans leur manquer de respect.
Après, ça peut pas. Romain, s'il y a des blessés, Hein. Il y a un moment, il va falloir avoir 18 joueurs sur la feuille. Et,
bon, t'as quand même une équipe, t'as quand même un 11.
Ouais, enfin, parce que attention.
Elton Romain nous a quand même dit on va peut-être avoir un joueur blessé qui va s'avancer.
Ouais, mais après Kevin, toi t'es bien placé pour savoir ça. Ça c'est les aléas d'une saison, parce que attention à ne pas non plus nous décrire une situation apocalyptique. Je veux dire par là, il reste quand même 2 mois de compétition. Donc l'Olympique de Marseille, oui, est dans un passage qui n'est pas forcément bien par rapport à l'infirmerie. Mais ça ne doit pas, entre guillemets, interdire le fait que l'Olympique de Marseille doit toujours continuer de suivre ses objectifs, à savoir se qualifier en Ligue des Champions et battre dans un premier temps Benfica. Donc aujourd'hui, oui, il y a des absents, oui, il faut le déplorer, mais c'est pas pour autant que nous, on va tolérer le fait que l'Olympique de Marseille arrive dans une position de soumission face au PSG, parce qu'en gros, l'infirmerie est pleine.
Après le match, tu dois le jouer, le match.
Ah oui.
Le match, tu dois le jouer. Oui. Après, oui, t'es diminué. Non, mais après, t'es diminué. Le PSG, de toute façon, quoi qu'il arrive, même à 11 contre 11, on l'a bien vu à l'aller, il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Maintenant, moi, c'est plus sur la suite. Notamment le match contre Benfica, la double confrontation contre Benfica, où l'OM était quand même sur une belle dynamique en Coupe d'Europe. Et je pense que même si Benfica est dans mon esprit favori, il y a quelque chose à faire. Surtout quand on voit les dernières performances de Benfica, je les ai vues contre Toulouse, où c'est pas le grand Benfica de l'année dernière. Et puis derrière, t'as des matchs contre Lille, contre Lens, contre Nice à la maison. Quand tu vois que l'OM est meilleure équipe à la maison en Ligue 1,
l'une des pires est la 16e à l'extérieur.
Voilà, tu dois te donner les moyens de faire quelque chose sur ces matchs-là, et j'ose espérer pour l'Olympique de Marseille que ces fameuses blessures et ces pépins physiques, à un moment donné, ces mecs-là vont revenir petit à petit. Si c'est juste, on va dire, pas s'aborder, c'est pas le bon mot, pas bazarder, mais en tout cas faire l'impasse sur le match du Paris Saint-Germain, et encore, j'aime pas ce terme-là, mais si t'as trop de blessés, mais c'est la suite aussi qui va être importante.
Mais non, mais Walid, il y a 65 000 places de vendues pour le match, j'exagère à peine. Donc tu penses bien que le match, non seulement il va se jouer, et puis il y a ce truc très marseillais, mais j'ai envie de te dire, c'est très footballistique de toute façon. C'est-à-dire que là, on est mercredi, on est là à se dire c'est foutu, Et puis jeudi, on va se dire c'est foutu, mais il y a une petite chance. Vendredi, tu vas te dire bon, c'est jamais le football, le fameux, ils ont deux bras, deux jambes, voilà. Samedi machin et dimanche.
Devant le stade, c'est le feu. Voilà, c'est ça.
Il y a bien une année où on peut le faire, c'est celle-là. Tu vas te mettre le feu.
Ouais.
En fait, ça fait penser un peu à la saison. La saison Bielsa, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce OM-PSG, où en fait, parce qu'un joueur se galvanise et se met à un niveau stratosphérique, c'était le cas de Gignac, tu arrives même à mener à la mi-temps, et puis au final, la logique est respectée, t'avais
une équipe quand même,
rapidement de but.
Tu avais une équipe un peu meilleure.
Mais tu avais derrière Romao, Morel et Fanny. Et après coup, tu te dis, mais comment on a pu croire avec Romao, Morel et Fanny, et je les embrasse, je les salue, c'est peut-être un qui sera footballeur masqué, si ça se trouve, mais comment on a pu croire que ces mecs-là pouvaient rivaliser face à Ibra, Cavani et Pastore? Ben, sur le coup, on y a cru. Ben, là, c'est pareil. Peut-être que dimanche, deux heures avant, on va y croire et qu'après, on va se dire, comment on a pu croire avec.
T'as raison, un homme ou Aubameyang peut créer de l'espoir, effectivement. C'est un homme qui est capable de, dans ce grand rendez-vous, de rivaliser. Tiens, j'accueille Renaud, 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut, Renaud.
Il faut qu'il soit aidé, quand même.
Bonsoir à toute l'équipe de Génération After.
Salut, Renaud.
Renaud. Historique de l'After. Il est né avant Génération After, Renaud, sur RMC.
Oui, ben, j'ai commencé à écouter l'After en 2006, de mémoire.
Ouais, ben voilà, la première année. Tout à fait. Ça fait juste 18 ans.
J'avais trouvé ça.
Walid n'était pas né d'ailleurs.
Vraiment intéressant.
Je venais de naître. C'est en 2007, voilà. Walid.
Et donc ça.
Alors, bon, comment t'appréhendes ce match? Enfin, est-ce que tu l'appréhendes et comment tu le prépares, toi, émotionnellement?
Alors, il faudra quand même jouer le match, bien évidemment, parce que c'est un match de championnat et parce que les joueurs sont des professionnels. Donc, bien évidemment, les joueurs qui seront sur le terrain, je pense, auront à cœur effectivement de faire la meilleure prestation possible. Par contre, voilà, moi ce qui m'embête évidemment, c'est surtout les blessures. Alors les blessures, c'est pas forcément comment dire, je m'inquiète pas. Mon inquiétude concernant les joueurs blessés ne comment je pourrais dire ça, c'est pas une inquiétude que j'ai par rapport au match de dimanche, justement, parce que moi je m'attends à ce que le Paris Saint-Germain batte Marseille. C'est pas du défaitisme, c'est juste une forme de réalisme. Mais ce qui m'inquiète par rapport aux blessures, comme le disait l'un de nos chroniqueurs, c'est que pour Marseille, ce qui est quand même embêtant, c'est de se dire qu'on va être un peu décimé pour jouer le match, le quart de finale de Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne, contre le Benfica. Je pense que Marseille avait effectivement été dans une relative bonne dynamique au niveau de la Coupe d'Europe, et je pense que mentalement, avec une équipe, avec un effectif au complet, il y aurait eu effectivement une forme de ferveur et de motivation, et je pense que là ça peut-être donner un petit coup de mou, un petit coup au moral par rapport à ce match de Coupe d'Europe qui me paraît plus important, parce que si vous battez Benfica, vous êtes comme en demi-finale de la Ligue Europa, ce qui n'arrive pas tous les jours pour un club français. Ça nous permet de prendre des points à l'indice UEFA, alors que le match du PSG, bon, à la limite, on le gagne. Bon, bah, les supporters marseillais, la majorité d'entre eux vont être très contents, parce que une espèce de haine ridicule, d'ailleurs, que je trouve, qui a été fondée.
Oui, puis c'est un enjeu au classement. Hein. Marseille doit gagner pour refaire son retard. Hein. C'est pas uniquement prestige, un match étoile, hein, ce match dimanche soir.
Ce qui est dérangeant surtout, c'est cette année, c'est que j'ai l'impression quand même que cet effectif-là, beaucoup de fatigue, beaucoup de pépins physiques quand même. Hein.
Ouais, l'année, elle est poussive, elle est dure.
Depuis le début de saison. Souviens-toi, Gattuso, quand il avait tiré la sonnette d'alarme en parlant de la préparation physique, en disant on n'est pas prêt.
Enfin, on aurait pu aussi tirer la sonnette d'alarme.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais indépendamment de ça.
Bien sûr, mais globalement, entre les blessures longue durée, celle de Rongier qui fait mal à un moment donné, les blessures répétitives, Gigot à un moment donné, Renan Lodi sur les 6 premiers mois, Aubameyang.
Rongier.
Verretou, Kondogbia, pas mal de blessures. Correa qui a complètement disparu, même si c'est pas plus mal quand on voit son niveau. La fatigue, les retours de Cannes, voilà, tu sens quand même que t'as jamais vu véritablement Klos, Jonathan Klos aussi, les petites blessures, etc. Ça fait beaucoup, quoi. C'est dommage pour l'OM de ne pas avoir des joueurs fiables cette saison physiquement, quand même.
Ce qui est complètement fou, c'est que cette saison est partie en vrille sur une main à la 95e minute de Guendouzi face au Panathinaikos.
Après, on sait pas ce qui se serait passé avec une poule de Ligue des Champions.
Mais quand même.
Ouais. Et après, juste pour répondre à Renaud, notamment sur l'aspect motivation face au Benfica, sincèrement, Renaud, tu peux même arriver avec Ghislain Printemps sur le terrain.
si t'es pas motivé sur un quart de finale à la maison, 60 000 spectateurs face au Benfica, il y a beaucoup de joueurs qui doivent se poser des questions sur leur avenir.
Vous parlez trop souvent de motivation. On en parlait tout à l'heure sur Kylian Mbappé.
Il est professeur là. Début de phrase, professeur.
Il y a aucun joueur qui rentre dans aucun match en se disant qu'il est pas motivé aujourd'hui. Après, il y a un état mental. Il y a en effet un état psychologique d'une dynamique qui peut être très négative.
Une fraîcheur.
Je vois encore Richarlison là qui parle de dépression.
Mais ça existe les joueurs qui choisissent leur match, Kevin. C'est eux qui le disent. Enfin, là, je ne choisis pas consciemment.
Je choisis pas jamais un match de l'équipe de France pour faire le laisser passer ou un match de quart de finale de Ligue Europa. Tu choisis le seul match que tu choisis quand tu es professionnel, je te le dis tout de suite, hein, tu peux le noter, c'est un match de Coupe de France contre une R1 ou contre une Nationale 3 que tu n'as pas envie de jouer.
Mais un
match de Ligue 1.
Tu dis.
Donc, interro, quand tu reviens
quand
tu
es un joueur professionnel, à part un match de Coupe de France, une division inférieure, le 2 janvier, ou un match.
Tu parles doucement parce qu'il écrit en même temps.
Le trophée Gamper au Barça. Mais sinon, il n'y a aucun match que tu laisses passer quand tu es un professionnel et que tu as une prime de match de plusieurs millions d'euros.
Juste à 22h, si vous pouvez me rendre mon carnet de liaison, c'est mon papa.
Je te laisse ton carnet une fois qu'on aura vu ton éducateur qui va venir après.
Le CPE, c'est Romain ce soir. Merci Romain.
Merci Romain.
Ouais. Bah merci les gars, bientôt. Salut, et en présentiel, hein, bien sûr.
Bien sûr, évidemment.
J'ai pris la leçon. Salut, encore une fois.
Merci à Renaud également d'avoir fait le 32-16. C'est bien, t'as baissé la tête, t'as écouté.
Elle était pour Elton aussi, celle-là.
Ah, d'accord.
Tu sais, quand tu commences par. Vous devez comprendre une chose, les gars.
Ouais, non, mais arrêtez. Ou sinon, arrêtez. Non, mais arrêtez.
Non, mais comme je l'ai dit aussi. C'est très coûteux, ça.
Exactement.
Comme je l'ai dit il y a 3 mois et demi.
Mais ça n'existe pas.
Allez,
c'est vrai.
On revient dans un instant, pause sur RMC et dans Génération After. On va parler foot et éducation et résultats scolaires.
Et bah c'est
ça vous intéresse, vous les cancres.
À tout de suite sur RMC. Walid, sort ton cahier.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo, Walid Acharchou, on est ensemble jusqu'à 22h. Dans un cadre, le footballeur masqué nous attend. Il est patient, il sera avec nous. Ce sera à vous de jouer les gars, les questions à poser. J'ai failli dire son nom en fait, c'est pour ça que j'ai bugué. J'ai failli balancer son blaze.
J'ai vu en toi, ouais.
T'as vu le truc?
Ouais, je l'ai vu.
Le petit malaise là?
Et je l'ai, c'est bon.
Bon.
Je suis mentaliste.
Vas-y, donne.
Je le garde après.
Rien te vient là. J'accueille notre invité ce soir dans Génération After. Marine Kolić est avec nous. Salut Marine.
Salut.
Heureux de t'accueillir.
Prof, Salut Marine. Salut Marine.
Prof de PS depuis 20 ans au collège Jean Villard de Villetaneuse, qui est en zone REP+.
Ça.
Tu viens nous parler d'un projet foot que tu as lancé dans ton collège et grâce à ça, les résultats scolaires sont spectaculaires. Je précise aussi que tu es un ancien coach de foot en fédéral, diplômé BE2, comme Kevin d'ailleurs, je crois.
Ouais, c'est à peu près le même niveau, même si ça a changé de nom.
Ça a changé de nom, c'est ça?
C'est ça, BE2, DES, ouais. DEF.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc pas de leçon de foot à Marine, mon cher Kevin. Là c'est au niveau. Là, c'est au niveau. Le diplôme qui est juste en dessous, d'ailleurs, je précise, du DEPF, hein, qui permet d'entraîner une Ligue 1, par exemple, ou une Ligue 2. Je crois d'ailleurs que tu as été le coach d'un des gars autour de la table, ici.
C'est vrai.
Un mec qui est à ta droite.
À ma droite.
Qui a plus beaucoup de cheveux.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Modèle.
C'est vrai que c'était mon coach au sein de l'US. C'est un Union Sport en moins de 15.
C'est ça, en 2008, je crois.
Ouais, 2008, ouais, en moins de 15.
Et tu sais quoi? Ce sera pour la fin.
Ouais.
Mais il est venu avec un carnet de notes.
Ouais.
Et de statistiques.
Ah, il doit pas en avoir beaucoup.
Marine, il a gardé tes stats.
Mais non, c'est impossible.
Tes stats, donc dis, on est quoi, 15 ans après?
Ouais,
16 ans après.
Le chat est en ébullition. Le live est passé de 2 à 4 000 personnes.
Ouais. Non, moi, j'étais pas un genre de stats, moi.
Ah ouais?
Moi,
bon, on va voir si c'était un crack ou une fraude. Ouais. Voilà. Le masque va tomber ce soir pour toi aussi.
D'accord.
D'abord, parlons de ce projet, Marine, assez spectaculaire. Tu l'as lancé il y a 4 ans. En quelques mots, en quoi il consistait, justement?
L'idée, c'était de réussir à capter les élèves avec le foot. Leur dire, voilà, on va faire un projet autour du foot. Est-ce que vous accrochez? Et forcément, tu poses la question et répondent tous. Oui.
Tu leur dis ça comme ça? Ouais. Certains ont pu croire FIFA ou...
Non, les petits s'inventent une vie. Tu leur dis foot, ils partent tout de suite. Alors, je parle ici en Seine-Saint-Denis. Hein. Tu leur dis foot, ils partent.
D'accord.
Alors, après, derrière, tu mets ce que tu veux. Après, derrière, tu diriges le projet, tu cherches des appuis, des soutiens financiers, l'appui de ta direction, des collègues. Mais tu dis foot et après, les petits, pour de vrai, ils partent.
Et c'est pour ça que tu as fait cette proposition-là. Tu dis, ils vont accrocher, il faut que je les accroche.
Ouais,
c'est des gamins qui accrocheront moins dans leur scolarité, peut-être.
Moi, j'en ai fait, comme je disais, le foot dans le fédéral, foot à droite, à gauche. Au collège, à un moment donné, je faisais tout sauf du foot. Après, à un moment donné, je disais, on va tenter un projet avec un collègue, on va tenter du foot. Et donc, on a monté le projet sur une classe, on va essayer de monter une classe, on va utiliser le foot comme, on leur dit foot comme support. Après, c'est du futsal. On leur a dit futsal, mais c'est comme ça, monsieur, on n'est pas dehors. Je dis, non, futsal. Ils faisaient pas trop la différence. Donc après, ils disent, vous allez avoir du foot une heure par semaine.
Mais par tu contre, commences comme ça. Tu leur dis pas tout à ce moment-là du projet. Voilà.
Non, tu leur dis pas tout. Mais par contre, contrepartie. Je fais attention si ça part en vrille dans les autres cours. On calme. Soit tu peux être sanctionné sur, tu peux être sanctionné sur la séance, tu peux être sanctionné sur autre chose. Et les petits adhèrent. Et les petits sont contents, ils font des séances type club. Alors, on prend le PS, on va pas faire des grands débats, mais des vraies séances type club avec, on a la prétention de faire des bonnes séances, on a du matériel. Dès après, on les emmène à la première année visiter le Stade de France, on les emmène aller voir un match de, au Parc des Princes, les féminines.
En fait, c'est une thématique foot, pas uniquement, c'est pas uniquement, moi, prof de sport, je vous propose qu'on fasse l'année à jouer au foot.
Non, non, pas du tout.
Sur vos heures de sport.
Après, on l'a utilisé. Après, d'ailleurs, on a dit, bon, l'année suivante, on leur a dit, bon, vous allez jouer. Par contre, maintenant, il va falloir aussi arbitrer. Vous avez passé un diplôme d'arbitrage. Après, on leur a dit aussi, vous allez jouer, mais par contre, maintenant, pendant le gymnase, pendant une demi-heure, il n'y a plus le droit de parler en français, obligation de parler en anglais.
C'est pas un peu galère au début, quand même, quand ils sont en sixième, t'as comme,
tu les as pris en sixième. Non, là, ils sont en cinquième. Et là, c'est, les temps modernes. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Ils ont le droit de parler français, mais ils peuvent pas parler français, ils peuvent pas parler anglais, ça n'a pas un mot qui sort. Donc, au début, c'est un quart d'heure, donc c'est un quart d'heure de silence. Après, ça sort, c'est juste des, Mister, yes sir, des petits sont canailles.
Ah, il attaque the ball.
Voilà.
Non, en fait, t'as la bulle fékir après.
Ouais, après, non, après, voilà, après, ça a été, après, c'était l'arbitrage. Ça, on leur a dit, mais tu vas arbitrer. T'as juste à dire qui est la balle à compter en futsal, justement, 4, 3, 2, 1, compter en anglais, faire reculer un joueur derrière la ligne. Après, ils disent, t'as les lignes sur terre, ok. Yellow line, please. Mais tu sais, les gamins se prêtent au jeu, mais ils sortent après. On n'a pas fait des anglophones. Hein. Mais juste, ils ont cassé une barrière, ils parlent un peu. Après, d'ailleurs, on a bossé avec une collègue, une journaliste, Hortense Leblanc, pour pas la nommer. Elle a bossé avec eux, elle a appris à comment on fait une interview, comment on répond à l'interview, comment on écrit un résumé avec l'histoire du titre, le chapeau, juste après un match.
Ça fait.
Derrière, après, on a interviewé un ancien international croate. Alors, on a cherché un peu, on leur disait, ils voulaient Luka Modric. On leur a proposé Perisic, je me suis dit, ah, c'est qui? Je le connais pas, je suis irrespectueux.
Ils sont durs.
Ils sont durs. Alors, après, finalement, on avait, voilà. Et finalement, on a eu Franco Andrijašević qui jouait Rijeka en Croatie, en Belgique à Genk, qui a joué l'Europa League. Ils ont préparé l'interview avec Hortense. Ils ont posé les questions en anglais.
En anglais.
En anglais. Alors, ils disaient, après, c'est un sketch. Hein. Ils viennent avec la question écrite en anglais. Lui, il répond en croate. Moi, je fais la traduction le lendemain et tout le monde. Voilà, on a tout enregistré. Après, on a bossé sur l'alimentation, mais toujours un peu avec le foot. Et là, cette année, on les emmène à la rentrée. Là, ils sont en troisième. On les emmène en Croatie une semaine.
Waouh.
Ils vont jouer.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est même la carotte presque.
Ouais, c'est la carotte de l'année. Parce que cette année, après, il y a l'orientation. Il y a pas mal de choses à faire. Ils sont en troisième. Faut gérer l'orientation. Faut gérer certains diplômes comme PIX, ces trucs informatiques, la SSR. Mm-hmm. On leur a dit, voilà, il y a le séjour en Croatie. On part une semaine. On va jouer. On arrive, je crois, lundi soir. Mardi, on joue contre des élèves croates. Des petites sections. Parce qu'on a dans la classe, on a comme 13 filles et 11 garçons.
Donc, une majorité de filles.
Majorité de filles. Donc, en fait, les filles jouent aussi. Donc, au début, c'était la sixième, c'était comment réussir à leur faire accepter de jouer ensemble. Au début, c'est impossible pour un garçon de se dire ensemble, je joue avec les filles et les filles. Pareil, et elle aussi, pour elle, c'est impossible. Je vais pas pouvoir jouer avec des garçons. Et après, tu vois, les filles progressent techniquement. Les garçons se rendent compte qu'en fait, ils sont pas si forts que ça. Et qu'ils peuvent jouer. Au début, tu fais jouer un garçon, deux garçons. Puis après, c'est la balle, elle circule, ça joue et ils se rendent compte que.
Et donc là, ils vont aller en Croatie une semaine fin avril. Ils vont visiter le stade de la Djouk, la Djouk Split.
C'est vrai.
Découvrir la ville avec les tags ultra. Explication historique également de la Torcida, la guerre de Yougoslavie. Voilà, il y a toute une dimension aussi historique, pédagogique. Et surtout, ce qui est spectaculaire, c'est que ce projet-là, eh bien, a produit des effets sur leur niveau scolaire. Moi, ce que je disais, c'est que sur les quoi? Donc, sur les 24 élèves, t'en as 17-18 qui ont obtenu des mentions au conseil de classe.
Voilà, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On a fait de la magie, mais pareil, c'est un fait. Voilà, c'est vrai que sur classe, au deuxième trimestre, t'as 24 élèves, t'en as 18 qui ont reçu une récompense type encouragement, compliments, félicitations.
Sur l'ensemble de leur discipline, de leur année scolaire.
C'est pas que chez moi, c'est pas qu'en EPS.
Ce qui est au-dessus de la moyenne, en général, les autres classes, ou pas?
Ouais, sincèrement, après, c'est pas des stats, mais c'est la meilleure classe que j'ai jamais eue, et je leur dis, hein. Alors après, c'est...
Et comment tu l'expliques, ça? C'est quoi? Pourquoi? Parce que si tu bosses l'anglais et le sport, ça veut pas forcément dire que tu seras meilleur en maths, en histoire géo ou en...
Non, mais c'est la phrase, le groupe vit bien.
D'accord.
La classe est bonne. Ils ont bossé quelques profs. Les profs les ont vus. Les gamins voient les profs venir au gymnase. Et ça, déjà, tu vois, c'est une barrière. Les profs voient les élèves ailleurs que dans une salle, au gymnase aussi. Après, les profs, des fois, nous accompagnent sur les sorties. Si tu dis, tu vas au Parc des Princes, mais tu vas au Parc des Princes, match, il est à 20h et tu pars à 70e parce que tu sais que tu vas peut-être pas attraper, tu dois prendre la 9 et la 13. Et il faut apprendre à attraper le dernier tram. Donc, des fois, t'as une collègue d'anglais qui nous accompagne. On est parti aussi voir France-Croatie au Stade de France. Vraiment dans le cadre du projet, autour de la Croatie. Donc après, t'as une relation qui se crée et le gamin marche vachement à l'affectif. Un élo gamin après.
Ouais. Et au collectif aussi, à l'ambiance de classe, quoi.
Ouais, l'ambiance, ça a bien pris. Après, non, je te dis, en cinquième, il y a trois gamins qui ont été exclus de la classe. À un moment donné, on leur a dit aussi, comportement est pas bon, vous avez pas joué le jeu, contrat, pas. Et sur les trois, il y en a un qui est rentré en troisième, à nouveau, il est revenu. Donc il a été en quatrième. Il a pris un an.
un enfer. Une classe classique.
Voilà. Et les gamins ont demandé, il y en a un autre qui a repris un an. Et on l'a intégré, il a pas joué le jeu. Et les gamins ont fait, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, faut le chercher, faut ramenez-nous. Je veux le nommer là. Ramenez-nous Jérémy, on veut Jérémy. Et vas-y, on va vous le chercher. Et après, petit contrat, le petit, il est venu là. Et après, voilà, après. Après, ça se passe bien, en général, ça se passait super bien avec moi, ça se passe bien avec d'autres collègues. Après, on bosse à, encore une fois, je dis à plusieurs. Le collègue, l'appui de la direction, conseil départemental qui nous suit, le projet autour de la Croatie, c'est un projet du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Avec des subventions.
Des subventions, l'air de la guerre.
C'est où, c'est à Villetaneuse?
À Villetaneuse.
Oui, t'es de Villetaneuse, c'est ça.
Ah, pas loin de.
Bon, qu'est-ce que vous inspire, les gars?
J'ai plusieurs questions pour moi. Est-ce que ça a vocation à durer dans le temps? Est-ce que c'est pas circonstanciel parce que t'as évoqué le groupe? C'est un groupe qui était à part. Est-ce que ça peut se reproduire avec d'autres groupes qui seraient davantage réceptifs? Et est-ce que, dernière question pour moi qui est tout aussi important, est-ce que le fait de sortir d'un cadre classique, c'est-à-dire on n'est plus en salle de cours, ça les a aidés justement à s'épanouir davantage?
Moi, j'ai le sentiment, pour répondre à ta dernière question, que ça les a, ils ont gagné en autonomie, ils ont gagné en maturité, ça c'est vrai. Est-ce que ça va se pérenniser? On a une classe de troisième cette année qui part en Croatie, mais on a une quatrième et une cinquième aussi. Après, t'as une question de moyens. Alors, en ce moment, c'est le débat dans les moyens de l'école. Après, t'as aussi une autre question, c'est l'épuisement. Je vais pas te mentir, ça prend du temps à organiser, ça prend du temps à gérer. Là, en ce moment, voilà, je suis pas dans le fédéral parce que je suis là-dessus. Je sais pas où je serai l'année prochaine. Après, une vie de famille aussi. Après, on va essayer de trouver d'autres collègues. Après, j'ai des collègues en appui. J'ai des collègues qui sont un peu moins chauds parce que trop de foot, toujours le foot, encore le foot.
Alors, on n'aime pas quand le prof de PS prend autant de responsabilités.
Dans ce genre de projets qui sont bien sûr exceptionnels, quand on arrive à associer l'éducatif avec le sportif, on sait que ça marche, hein, peu importe les générations d'ailleurs. Mais est-ce que vous sentez quand même que c'est valorisé justement, que ce soit par l'éducation nationale ou même par le conseil général, peut-être même par la Fédération française de foot?
Non, je peux pas me plaindre sincèrement. Non, si c'est valorisé, on le voit, moi je le vois tous les jours au collège. Une fois, j'ai dit l'appui des collègues qui se proposent pour nous donner un coup de main, les gamins, les parents. À la base, je fonctionne avec les gamins, les parents. Là encore aujourd'hui, j'ai reçu des messages sur WhatsApp d'une mère d'élève qui me demande un conseil pour une fille que j'avais au futsal il y a 4 ans, mais j'ai sa petite sœur là justement qui est en troisième. Non, pour tout, conseil départemental, mais je monte des projets.
Non, mais bien sûr, c'est important de le dire aussi que non. Il peut y avoir aussi, quand on a un projet, de la valorisation.
Bon, alors c'est le feu sur le chat. Ça réagit, ça salue l'initiative évidemment, magnifique.
C'est dingue, franchement.
Il y en a qui nous dit, NG nous dit, nous, on est universitaire, il nous a emmené à Reims, maintenant c'est la Croatie, quoi. Voilà. Et puis beaucoup s'interrogent sur le niveau réel de Walid quand il avait 14 ans. Il y a beaucoup de spéculation, on nous dit, Walid, à mon avis, il faisait ish, nous dit Atem, au City Stade. Oui, non.
Non, j'ai
pas de ish, ish, ish.
Non, ça arrivait pas au deuxième ish.
Ça m'est déjà arrivé.
Marie, je dis Walid en 10 joueurs frissons, style caca.
Non.
Caca, ouais. Peut-être que je suis plus là. Bon, il était qui? Il était quoi?
Milieu de terrain. Axial, offensif.
Évidemment.
Numéro 10.
Non, après, profil, problème, c'est que Walid, je peux en parler. Il a oublié, il a longtemps, mais pour de vrai, c'est les vraies stats. Walid mesurait en septembre, donc en 2007-2008, 1m57, 42 kilos.
Non.
C'est vrai, c'est
retard
vrai.
De croissance, c'est pas, mais plus petit que les autres.
Les gens me croient pas quand
et là, aujourd'hui, tu fais 1m80 à peu près?
Ouais, 1m78 et 99 kilos.
Voilà, c'est ça.
42 kilos au début d'année, 48 kilos en fin d'année, il a pris 6 kilos pour de vrai. Après, il y avait un groupe de 31 joueurs, j'ai fait partie des 5 plus petits. Après, il y avait à l'époque, il y avait une DH en première, nous, c'était l'équipe réserve, on essayait de faire jouer au début, maximum de première année, maximum de deuxième année. Après, il avait une belle génération. Dans la génération dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait Roussillon.
Ouais, Jérôme Roussillon.
Ah oui, quand même.
Il y avait Jérôme Roussillon.
Et au niveau des techniques, tu as les stats de jonglage, tu ne savais pas.
En début, pied fort 78.
Ouais.
Pied faible 12. Tête 10. Attends.
Tête 10, c'est pas du tout.
C'est pas mal.
On parle de quoi?
On n'a pas fait bosser beaucoup.
10 de la tête, c'est pas mal.
Pour un enfant. On a refait le test. Pied faible, pied fort 142.
Pied fort 142.
142, fallait monter en arrière.
Pied faible, pied fort, les deux.
Pied fort 142. pied faible 35.
Pas mal.
Et tête 29.
On parle de langage. Ah ouais, 29 dans la tête, pas mal, garçon. Bon, voilà, on en sait plus sur Walid également.
Ouais,
c'est après. Et sur
moi, je me rappelle de la première phrase de Marine quand je suis rentré dans le vestiaire ou la deuxième. Elle m'a dit, Walid, tu vas pas me faire comme les autres, moi. Tu vas prendre le ballon, tu vas le lâcher. Parce que j'avais des gros problèmes, c'est-à-dire que j'avais cette
faculté. Ouais, c'est fou, c'est comme à l'antenne en fait. C'est comme dans Génération
After. Si tu veux jouer avec moi, va falloir que tu fasses vivre le ballon. J'ai pas beaucoup joué.
Voilà Marine, c'était un plaisir de t'accueillir. Tiens, tu peux rester avec nous dans un instant, si on va jouer. C'est le footballeur masqué, on va devoir découvrir l'identité du footballeur qui se cache derrière le masque. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo, Olivier Cherchour et notre invité Marine Kolic. C'est parti pour le footballeur masqué.
RMC, le footballeur masqué.
Alors attention, on investit les amis. Là, on a une vraie machine qui trafique les voix.
D'accord.
Vous n'allez pas pouvoir reconnaître sa voix.
Ok.
Sachez-le. D'accord. Il n'y aura pas de nouveau Ludo Bragnac.
Ok. Ok.
Donc, je rappelle le principe. Comme depuis le début de la saison, vous posez des questions. Vous devez trouver l'identité du footballeur masqué que j'accueille. Bonsoir, footballeur masqué.
Bonsoir.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux là.
J'aime bien.
Il y a un sourire dans la voix quand même. Hein. T'as quand même le ton.
Ouais.
Alors, c'est parti. Kevin, ta première question.
Bonsoir, footballeur masqué. Je voudrais savoir comment vous vous appelez.
Non, ne tombez pas là-dedans.
Non. Est-ce que vous avez joué en France?
Oui.
Okay. Elton.
Bonsoir, footballeur masqué. Est-ce que vous avez joué en Ligue 1?
Oui.
C'est bien, on démarre par l'essentiel.
Bonsoir, footballeur masqué. Est-ce que vous êtes champion de France?
Non.
Non.
Kevin.
Marine.
Marine?
Oui.
Avec le micro, on va l'ouvrir. Vas-y.
Bonsoir, footballeur masqué. Êtes-vous un international?
Oui.
Du coup, vous êtes un international français?
Oui.
Ah.
Est-ce que vous avez fait une grande compétition Euro ou Coupe du Monde?
Oui.
Est-ce que vous avez connu Raymond Domenech?
Est-ce que vous êtes Eric Abidal? Est-ce que vous êtes Eric Abidal?
Non, tu vas trop vite, chacun son tour. Elton.
Est-ce que vous avez connu Raymond Domenech?
Oui.
Est-ce que vous étiez à Meissner?
Je sais qui c'est.
Tu poses la question après.
Okay. Est-ce que vous avez joué à Chelsea?
Mais t'es insupportable.
J'ai reconnu.
Mais laisse. Vas-y, Walid.
Est-ce que vous étiez à Meissner?
Non.
Kevin, vas-y, pose une question.
Est-ce que vous avez joué à Chelsea?
Non.
Et ben voilà, tu l'as pas.
Voilà, alors, arrête. Déjà, t'es chiant et en plus, t'es nul.
Attends, du coup,
la voix, elle est bien trafiquée.
Bah oui.
Donc c'est Coupe du Monde 2006. Est-ce que vous avez fait la Coupe du Monde 2006?
Non.
Est-ce que vous avez joué en Angleterre?
Ben non. Oui.
Je vois.
Donc c'est. Vous avez fait l'Euro 2008?
Non.
Oui.
Est-ce que vous êtes défenseur?
Non.
Faut tourner là. Question, Kevin.
Bah, est-ce que vous êtes attaquant?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez joué à.
Ah, c'est ce que vous êtes, Bafé Gomis. Bafé Gomis.
Oui, c'est bien ça.
Ah, c'est ça. Bravo, Walid.
Bafé Gomis.
Bonsoir, Bafé.
Oh, Bafé Gomis.
Plaisir. Ah, c'est cool de retrouver ta vraie voix, ça fait plaisir.
Je suis persuadé que c'était William Gallas.
Tu trouvais que c'était William Gallas? Eh ben non, c'est Bafé.
C'est beau d'avoir Bafé Tim Wigan.
C'est beau, il est avec nous, Bafé.
C'est magnifique.
Très beau.
C'est un plaisir.
Plaisir de t'accueillir dans Génération After, Bafé Timbi. Bon, t'as pris du plaisir à ce petit jeu-là? On t'avait déjà fait ou pas? Non?
Ouais, non, c'est une première.
Là,
je me rappelle de ce doublé contre la Colombie qui t'emmène en 2008.
Ah bah oui.
Toulouse.
Équateur.
Avec le maillot rouge.
Ouais, exact.
Un bon souvenir. Beaucoup de souvenirs. Bafé, énorme joueur de Ligue 1. 12 sélections en équipe de France, 3 buts, une Coupe de France 2012 avec Lyon, 2 fois champion de Turquie avec Galatasaray.
Sacrée carrière.
D'Arabie Saoudite avec Al Hilal, notamment vainqueur de 2 Ligues des Champions Asiatiques aussi. Actuellement joueur du Kawasaki Frontal au Japon depuis l'été 2023. Bafé, tiens d'abord les nouvelles. Comment ça se passe pour toi là-bas au Japon? Est-ce que tu kiffes l'expérience?
Ça va. J'aime beaucoup l'expérience de vie en famille, d'être en immersion au Japon. J'avais fait le choix de voyager avec la famille pour découvrir une nouvelle culture parce que j'avais joué pas mal de temps en France, donc j'avais fait un peu le tour avec le nombre de clubs que j'ai fait. Et puis en ayant gagné toutes les titres individuels et collectifs en Turquie et en Arabie Saoudite, donc je voulais découvrir un nouveau pays pour terminer en beauté et en famille, parce que bah à nos âges c'est la famille qui reprend le dessus et c'est important de pouvoir, le football nous permet de voyager et découvrir du pays.
38 ans, je le précise, encore Baffé. Bon, pour ceux qui nous rejoignent aussi, Baffé, c'est Saint-Etienne, bien sûr. Hein, on nous écrit la Panthère, évidemment, avec la Saint-Etienne. Un passage à Troyes, rapide, Lyon, Swansea, Olympique de Marseille. 34 matchs, 21 buts à Marseille.
Ouais, il a laissé
34 matchs, 21 buts à Marseille.
2017, hein. Il a laissé une grosse empreinte
à l'OM.
Dans les analyses, parce qu'à chaque fois qu'on parle des numéros 9, on dit que le dernier numéro 9 qui a bien planté, c'était Baffé, oui, Tim Ligo.
Mais surtout que lui, il était à cheval sur l'Olympique de Marseille pré. Et avec l'arrivée de Matt Courte.
Ouais. Ouais. Tout à fait.
Il arrive cette saison-là.
42 matchs chez Galatasaray, 32 buts, voilà. Bon, gros scoreur, gros buteur Baffé. On a un quiz express à te poser, parce qu'on adore revenir sur la carrière de nos invités, d'un footballeur masqué. Plusieurs questions à te poser. Tiens, tu réponds du tac au tac, Baffé Timbi. Quelle est la meilleure équipe dans laquelle tu as joué?
Bon, je pense que c'était le Lyon qui est allé en demi-finale de Ligue des Champions.
2010.
Ouais, 2009-2010. Ouais.
Et vous battez Bordeaux en quart de finale. On s'en souvient et on s'en souvient vraiment. L'attaquant, le défenseur qui t'a posé le plus de problèmes, s'il fallait en ressortir un.
Oui, Pepe Ramos. Ouais. La charnière Pepe Ramos.
Ah bah oui. Tout simplement.
Oui, je pense que.
Allez, commencez par.
Ouais.
Bon.
Je pense qu'on est d'accord.
Ouais, Pepe Ramos, lequel était le plus dur sur l'homme, tu dirais?
Pepe était plus méchant, plus agressif, plus tranchant.
T'avais mis un but, un partout, je crois, match aller. Ouais, match aller de Ligue des Champions à Gerland.
À Gerland, ouais.
Ouais, je m'en rappelle de ce match-là, ouais.
Quel est le joueur avec lequel tu as joué qui t'a le plus impressionné?
Bon, il y en a eu beaucoup, ça serait manquer de respect à certains. Mais je vais en citer un, parce qu'il n'a pas eu la carrière que les autres ont eu, Pascal Feidouno. Mmh. Mais sinon, oui, Benzema, Ribéry, c'était très fort. Blaise Matuidi aussi, par sa progression, il a été il est allé très haut, très loin.
Ouais, tu l'as connu à Troyes, c'est ça, Blaise? Ouais, c'est ça.
Saint-Etienne aussi. Son évolution.
Kevin, avec le micro.
Bon, Baffé, la question que tout le monde se pose, en tout cas dans le sud de la France, est-ce que tu regrettes de ne pas être resté à l'Olympique de Marseille?
Non, je regrette pas. J'avais un prêt de un an et je devais me relancer et aider l'Olympique de Marseille à se qualifier pour cette Coupe d'Europe. J'ai rempli ma part du contrat et puis je devais repartir comme il était prévu. Donc après j'ai vécu.
Tu sais que eux ils regrettent.
En Turquie.
Tu sais que eux ils regrettent. Les supporters pour beaucoup.
Bon, c'est l'histoire du football. On peut pas refaire l'histoire. Mais maintenant je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. Je suis tout cœur avec eux pour qu'ils puissent avec. La nouvelle entraîneur qui se réaliser des bonnes choses et que l'Olympique de Marseille retrouve sa place.
Elton.
Baffé, quel est le coach qui t'a le plus marqué?
Le plus marqué, je dirais, il y en a plusieurs encore une fois, mais je dirais Antonetti, parce que c'est le premier, c'est celui-là qui m'a permis de pousser une carrière de footballeur professionnel.
À Saint-Etienne.
C'est lui qui m'a donné la chance de pouvoir évoluer au niveau. Donc je vais citer Antonetti si je t'en citais qu'un, mais bien sûr j'ai appris de tous mes entraîneurs.
Quel est ton, on nous demande là sur le chat de la chaîne YouTube, si tu avais un regret, ce serait lequel dans ta carrière, Baffé?
Un regret, bon j'en ai pas parce que bon, je pense que il y a des choses que j'ai bien faites, il y en a d'autres que j'ai mal faites et ça m'a permis d'avancer, de tirer des conclusions et d'apprendre. Mais j'en ai pas.
T'as joué à Gerland, t'as joué au Vélodrome, t'as joué à Galatasaray, à Geoffroy Guichard, au Stade de l'Aube aussi à Troyes. Quelle est la plus grosse ambiance selon toi parmi ces stades?
Galatasaray. J'ai eu la chance de jouer encore dans de nombreux le stade avec les Verts, avec le stade Jean où on a eu des belles campagnes et notamment ce match contre le Real Madrid où il y avait une bonne ambiance, le Vélodrome. mais les ambiances TUP sont pas comparables avec toute cette passion ou même les VIP chantent. C'est Galatasaray les meilleures ambiances.
C'était bien fait, Timmy Gomis de Génération After. C'était un plaisir. Je remercie également Wasserman, qui nous a permis de t'avoir avec nous ce soir en direct dans Génération After. Merci, Baffet.
Merci, Baffet. Merci beaucoup.
Quand tu passes à Paris, n'hésite pas, tu viens en studio également. Et puis, tiens, il y a plein de messages de Toulonnais, qui te saluent, bien sûr. Parce que t'es une légende au Sporting Club de Toulon.
C'est notre Ligue 1, Baffet, Timmy.
L'enfant de la Seyne-sur-Mer. Merci, Baffet. Très bonne soirée. À très vite.
Ciao.
C'est patrimoine Ligue 1, là. Là, on est totalement patrimoine.
Ah, c'est notre Ligue 1, c'est notre enfance, notre adolescence.
Ouais. Les années 2000-2010. Tout à fait. Voilà. On s'est régalé, c'était Génération After dans un instant l'After. Merci Elton, merci Kevin, merci Walid et merci Marine. Bravo pour ce que tu fais dans ce collège.
Ouais.
Et puis n'hésite pas, si tu veux qu'on intervienne parfois dans ton collège, on va venir, avec plaisir.
Attention.
Ah, mais non, pas attention, on va venir.
Et tu vas me donner les stats là, je vais les encadrer quand même. Parce que les 44 kilos là, j'aimerais bien m'en rapprocher.
Dans un instant l'After avec Thibaut, avec Stéphane Guy et Flo Gautreau. Bonne soirée à tous sur RMC, l'After continue jusqu'à minuit.